une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 17 octobre 1961, voilà exactement 61 ans, à Paris, une manifestation pour protester contre le couvre-feu imposé aux Algériens est durement réprimée avec des morts et des milliers d'arrestations. 7 ans après la Toussaint Rouge, 3 ans après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, l'indépendance de l'Algérie apparaît inéluctable. Pourtant, la France est plus perturbée que jamais par cette décolonisation qui n'en finit pas et la guerre s'est même transportée en métropole. Le général de Gaulle est depuis longtemps convaincu de l'intérêt d'abandonner l'Algérie. Il souhaite seulement que l'indépendance se fasse à moindre prix. Le 8 janvier 1961, par référendum, les Français votent massivement pour l'autodétermination des Algériens et des négociations secrètes s'engagent au plus haut niveau avec le FLN. La pierre d'achoppement est le statut du Sahara où l'on vient de découvrir d'immenses gisements de gaz. Le 11 février, désespérés par la tournure des événements, des partisans de l'Algérie française fondent à Madrid l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, en vue de combattre le général de Gaulle qu'ils accusent de trahison. Cela n'empêche pas le gouvernement français et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, d'annoncer officiellement l'ouverture de pourparlers à Évian. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, à Alger, 4 généraux tentent de soulever les militaires et les pieds noirs. Ce putsch d'Alger échoue piteusement en 4 jours. Dans le même temps, et pour ne rien arranger, l'OAS multiplie les attentats à l'explosif, provoquant de nombreux blessés. De son côté, la police multiplie les perquisitions et les rafles avec pour objectif d'assécher les circuits de financement du FLN. Le 5 septembre, le préfet de police Maurice Papon annonce que les Algériens pris dans des rafles à la suite d'un attentat seront renvoyés dans leur douar d'origine. Dès les jours et les semaines suivantes, plusieurs milliers sont internés dans des camps de fortune et quelques centaines renvoyés en Algérie. Mais les syndicats de policiers réclament davantage de fermeté. Le 5 octobre, Maurice Papon diffuse un communiqué qui demande, je cite, aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. L'objectif est double. Entraver les collectes de fonds du FLN auprès des travailleurs algériens dans les cafés et les meublés, mais aussi rassurer la police qui n'en peut plus des attentats. La Fédération de France et du FLN proteste contre ce couvre-feu discriminatoire qui, fait aggravant, conduit la police à interpeller les contrevenants en se fiant à leur apparence physique, qui les désigne comme étant des Nord-Africains. La presse elle-même dénonce ce contrôle au faciès, contraire aux droits de l'homme et source de nombreux malentendus. Le 10 octobre, le préfet de police jette encore de l'huile sur le feu en déclarant aux obsèques du brigadier chef Demouin, tué par le FLN, que, je cite encore, « pour un coup porté, 10 seront rendus ». Dans le plus grand secret, le comité fédéral du FLN, établi à Cologne, en Allemagne, appelle les 150 000 Algériens de la région parisienne à braver le couvre-feu en manifestant pacifiquement sur les Champs-Élysées et dans les beaux quartiers parisiens, en famille et sans armes, ce mardi 17 octobre à 20h30. Le général de Gaulle donne carte blanche à Maurice Papon pour interdire la manifestation et la disperser par tous les moyens. Et le préfet peut dire à ses hommes, je cite une nouvelle fois, « Désormais, vous êtes couverts ». Les policiers ne se le font pas dire deux fois. Une manifestation nocturne, à 2 pas du palais de l'Élysée et de l'Assemblée nationale, avec une police chauffée à blanc par les attentats dont elle a été victime et le blanc-seing du préfet, c'est le drame assuré. Malgré l'interdiction, 20 à 25 000 Algériens des banlieues ouvrières convergent vers le centre de la capitale. Le drame survient comme prévu. Prise de court, les forces de l'ordre interpellent sans trop de ménagement les manifestants à la sortie des métros et les embarquent dans des cars vers les commissariats. La plupart se laissent appréhender sans protester. Il ne s'en produit pas moins des violences qui frappent de stupeur les témoins et les journalistes.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Mais c'est seulement dans les jours qui suivent que la presse en vient à s'interroger sur la violence des affrontements. Le journal L'Humanité est saisi pour avoir dénoncé la répression. Le Figaro lui-même, bien que proche du pouvoir gaulliste, dénonce des atteintes inadmissibles aux droits de l'homme. La gauche va s'emparer de l'affaire dans les mois et les années qui suivent. Le bilan des manifestations présentées par le ministre de l'Intérieur serait de 6 morts et 136 blessés. Mais très vite, les organisateurs de la manifestation, relayés par les opposants à la guerre, évoquent des pendaisons dans le bois de Vincennes et une scène remplie de cadavres. Bien plus tard, en 1998, on établira que 88 corps de Nord-Africains sont entrés à l'Institut médico-légal et on chiffrera à 11 538 le nombre d'Algériens interpellés et retenus dans des mauvaises conditions d'hygiène et de nourriture, ainsi que des mauvais traitements. Dans les mois qui ont suivi la manifestation, les tensions se sont aggravées au sein du peuple français. Le 8 février 1962, dans l'Est parisien, une manifestation des partis de gauche contre la guerre d'Algérie et les attentats de l'OAS se termine par la charge de la police et la mort tragique de 7 manifestants au métro Charonne. Attentats, répression et manifestations n'empêcheront toutefois pas les négociations de se poursuivre à Évian. Elles aboutiront au cessez-le-feu du 19 mars 1962 et à l'indépendance de l'Algérie, effective le 3 juillet de la même année. Depuis, les relations entre la France et l'Algérie ne se sont jamais totalement apaisées. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire.